Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le meilleur de l'actu sur RMC et on démarre tout de suite avec Apolline Matin. Ce matin sur RMC, faut-il interdire le vapotage dans les espaces sans tabac? Selon un récent sondage commandé par la Ligue contre le cancer, 7 Français sur 10 sont favorables à cette interdiction du vapotage. Et pour le directeur de la prévention de la Ligue contre le cancer, Emmanuel Ricard, cette mesure est nécessaire pour invisibiliser la cigarette électronique chez les jeunes.
On a en fait deux types de publics. On a les fumeurs, pour qui la cigarette électronique peut être un moyen pour soit substituer la nicotine sans les effets de la cigarette, soit faire le sevrage. Par contre, on a une population qui est la population jeune, qui de plus en plus consomme. Les derniers chiffres sont 9,5% fument ou vapotent. La crainte qu'on a, c'est qu'on soit en retard d'une guerre et que ce qu'on a gagné sur la cigarette classique, on est en train de la perdre sur le vapotage.
Yael Mellul, vous qui avez arrêté de fumer et qui vapotez désormais, est-ce qu'il faut interdire le vapotage dans les espaces sans tabac?
Ben non, en fait, je veux dire, c'est pas. Il va y avoir du vapotage quoi massif. C'est quoi le concept
en
fait?
Pour l'instant.
Oh, mais enfin.
On a pas assez de recul pour savoir s'il y a vraiment du vapotage.
Tous les grands fumeurs qui ont réussi à arrêter de fumer grâce au vapotage, enfin, je veux dire, on va pas en plus maintenant leur interdire ça. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens.
Vous vapotez chez vous?
Ben oui, mais je vapote chez moi, je vapote dans la rue, je vapote sur les terrasses de café. Donc, ça veut dire que sur les terrasses de café, ça va être interdit aussi.
Bah non, on a le droit de fumer encore sur les terrasses.
Mais ils veulent l'arrêter.
Ouais, mais ils veulent l'arrêter. Donc, je veux dire, alors, c'est interdit
vis-à-vis des jeunes, là. C'est ça, c'est de dire aux jeunes, ouais. Attention, là.
Mais alors qu'on interdit. Oui, mais alors.
Les jeunes, ils te voient vapoter, ils disent, si je faisais comme Yael Mellul.
Ouais, bien sûr. N'importe quoi. Mais qu'on interdise la vente, voilà, aux jeunes. C'est tout. C'est aussi, voilà,
qu'on interdise. Tournage.
Non, parce que moi, c'est une aide absolument considérable pour les gens qui arrêtent de fumer.
Pour Yael ou pour moi, c'est un outil de sevrage.
Mais vraiment,
il y a des jeunes aujourd'hui qui rentrent sans être passés par la cigarette directement.
Ah bon?
Je connaissais quelqu'un qui était passé par RMC, qui m'avait avoué avoir il est devenu dépendant à la nicotine via la vapoteuse. Il n'avait jamais fumé.
Il ne fumait pas, il s'est mis à vapoter.
Il n'a jamais fumé de cigarette de sa vie.
Oui.
Il a commencé par la vapoteuse, il est devenu dépendant à la nicotine.
L'odeur est quand même sympa. Moi, quand je vois quelqu'un vapoter, moi qui ne fume pas.
Je peux témoigner, Yael a un parfum tabac. Ça, je ne comprends pas.
Bah oui, mais parce que
c'est du sevrage.
Non, mais parce que c'est le sevrage.
Papa pendant 20 ans.
Bah oui. J'ai besoin d'avoir ce goût de tabac, quoi. Voilà. Pour moi, c'est absolument médical.
Vous qui ne fumez pas, est-ce que vous y êtes favorable?
Ce serait mentir de dire que je ne fume pas. Je suis un fumeur de soirée. Mais j'y suis. Alors, je comprends.
Vous avez tous les vices.
Moi, je serais plutôt partisan et je rejoins Yael là-dessus sur l'interdiction. Il faut rappeler qu'en Angleterre, par exemple, ils ont interdit la vente de tabac pour toutes les personnes nées à partir de 2010.
Oui. On va voir comment ça se.
Donc il n'y aura plus leur objectif, c'est que les futures générations ne fument pas et ne vapotent pas. Ça, à la rigueur, oui, quand on a des gens qui sont en sevrage et veulent arrêter de fumer, je peux comprendre qu'on leur donne l'opportunité de pouvoir arrêter via la vapoteuse. Mais les jeunes qui commencent et qui commencent par la vapoteuse, oui, c'est absurde.
Ça devrait même être remboursé par la sécu.
Tu vas arriver vers quelqu'un pour le verbaliser.
Il faudrait que les buralistes appliquent la loi. Et aujourd'hui en France, officiellement, la vente de tabac est interdite. Mineurs.
Oui, mais tu as des vapoteuses sans nicotine. Donc en fait.
Et la même manière, à quoi ça sert?
C'est
bon sevrage.
Mais pour les adultes, oui.
Mais oui.
Quand les jeunes ont des vapoteuses parfum Barba Papa ou Fruit du Dragon.
Mais parce que c'est
quoi
sympa.
Ça sert.
Le goût est sympa.
Mais prenez un bonbon, je sais pas. On me dira le sucre.
Voilà. Juliette Brien, vous aussi vous
fumez? Ah, bah non, mais laissez-nous tranquilles. Puis de par pitié, en fait. On a enfin trouvé le truc qui faisait arrêter
vous aussi
en masse.
Vous vapotez?
Bien sûr, j'ai arrêté de fumer grâce à ça.
Oui.
Ah, mais je ne savais pas.
Mais ça fait arrêter les gens en masse. C'est une révolution, ce truc. Donc moi, je vis tellement mieux. Toute ma vie a changé grâce à ça. Laissez-nous vivre. Enfin,
pourquoi vous arrêtez pas?
C'est pas ma faute si les jeunes se mettent dedans. Les jeunes se mettent dans tout type de dinguerie, que ce soit interdit ou autorisé d'ailleurs. Enfin, donc je sais pas quoi dire. Moi, j'aimerais juste qu'on nous lâche en fait.
Est-ce que vous essayez d'arrêter le vapotage?
Ah non.
Je vais m'y mettre un jour. C'est pas le moment là.
D'accord.
Bon. J'ai d'autres priorités.
Ok, passons.
Ma mère adorerait que j'arrête.
Oui, bah écoutez.
Mais je vais le faire, mais c'est pas le moment. Voilà.
Apolline Matin, non, c'est les GG maintenant ce matin sur RMC. Peut-on encore faire la fête sans incident en France ce week-end? Lens, après sa victoire en Coupe de France de football, et Bordeaux, après le deuxième sacre de l'UBB en Champions Cup de rugby, ont connu des scènes de liesse et de joie populaire sans, il faut le signaler, aucun débordement. Alors pourquoi est-ce que c'est possible à Lens ou à Bordeaux et pas à Paris? Écoutez les explications de Jean-Loup Bonamy, le prof de philo des GG.
Ah. La violence, elle est culturelle. T'organises un événement avec des centaines de milliers de personnes au Japon, tout va très bien se passer, parce que il n'y a pas cette culture de la violence. T'organises un événement avec beaucoup moins de monde dans d'autres endroits, ça va très mal se passer.
Et
parce que
endroits.
Parce que il y a culture de la violence. Bah, j'y viens. Et après, si tu zoomes au niveau de la France, eh ben, tu vois que pourtant, dans une ville qui est très populaire, parce que le niveau de revenu, il est pas très élevé à Lens, eh ben, tu vois que à Lens, il y a pas, dans le club de Lens, qui est un club, justement, très chaleureux, très convivial, très fraternel, avec un bon esprit, c'est un état d'esprit bon enfant, eh ben, t'as pas les problèmes de violence que tu peux avoir au PSG, par exemple. Donc, quand, même quand tu zoomes à l'intérieur d'un pays, tu vois la différence culturelle entre la culture du club Lens, ou la culture du rugby par exemple, et la culture du PSG, avec des phénomènes d'ultra qu'on connaît depuis plusieurs décennies.
Pierre Rondeau, comment ça s'explique ça que justement il y a eu des incidents
ça a été,
à Paris et pas à Bordeaux et à Londres?
Révélé par la préfecture et repris par la mairie de Paris, en l'occurrence les incidents à Paris concernaient les supporters niçois qui montaient à la capitale. Bravo, pour, Charles. Et je dis les termes, foutre la merde. D'ailleurs il y a beaucoup de liens et de connexions entre les ultras niçois et des mouvements d'extrême droite. Et ils l'ont dit et ça a été déclaré, ça a été enquêté, ça a été sourcé. Certains venaient pour se faire, et je dis les termes, du Parisien. Ils voulaient vraiment taper des gens gratuitement.
Et je sais pas si on peut employer le terme supporter d'ailleurs pour les gens qui vont au stade.
Et on est entièrement d'accord. Ça ne concerne pas les vrais supporters niçois. Là, ça concerne des ultras politisés qui n'ont rien à voir avec le football. Ils auraient pu supporter du curling, du hockey, du volley, n'importe quoi. C'est des mouvances qui sont politisées.
Mais Pierre, quand le PSG se qualifie en Ligue des Champions, il y a le lendemain les champs saccagés, des expositions.
Je n'essentialise pas.
Quand Lens gagne une Coupe de France le lendemain, la ville de Lens n'est pas.
Et je n'essentialise pas. Je ne réduis pas ça aux supporters de foot. Évidemment, les Lensois, ça se passe très bien. Au rugby, les Bordelais, ça se passe très bien. Là, en l'occurrence, il doit y avoir des milices. Quand je parlais d'extrême droite côté niçois qui foutent le bordel, très certainement du côté du PSG, il doit y avoir des milices d'extrême gauche qui vont aussi foutre le bordel.
C'était l'extrême gauche là le soir de la Ligue des Champions qui est venu tout casser.
Pas l'extrême gauche, mais des gens qui ont une incointance avec un certain bord politique. On va pas se voiler la face en considérant que LFI a un rapport.
Oui, mais alors pourquoi c'est politisé à Paris et pas à Lens? Je veux dire, à Lens ils sont politisés aussi, je comprends pas en fait.
Alors il y a une culture club, il y a une culture foot, il y a une culture Lens a une affinité très particulière avec l'esprit sportif et le football, ce qui n'a pas lieu d'être à Nice ou à Nice. Il y a certains entre guillemets supporters ultra niçois qui viennent surtout pour s'afficher et afficher des symboles politiques. À Paris aussi avoir une explication sociologique.
Pourquoi à Paris quand on gagne il y a des voitures pétées, des lacrymos de
je vais avoir une explication
avec la police
dans
la rue.
Je vais avoir une explication profondément sociologique, très certainement islamo-gauchiste. Mais quand à Paris on a aussi une très forte communauté qui vient de banlieue, qui vient à Paris et qui vient à Paris pour foutre le bordel et faire leur intéressant parce qu'ils n'ont pas les choses, ils n'ont pas cet accès, ils viennent vraiment, les gens de banlieue viennent à la capitale pour foutre le bordel, pour faire leur intéressant. Parce qu'ils ont un sentiment de déclassement. Parce qu'ils éprouvent un sentiment d'abandon, parce qu'ils vivent dans la pauvreté en permanence.
Oh,
parce qu'il y a l'abandon aussi dans ces.
Lens, c'est pas une ville riche, et les abords de Lens, c'est certainement pas très riche.
Ce qui est sûr, c'est qu'en Ile-de-France, il y a un niveau d'inégalité qui est extrêmement important entre le 16e arrondissement de Paris et la porte de Saint-Cloud.
Donc c'est les inégalités.
Et les banlieues, avec très forte d'inégalité. Ça a été documenté pendant les émeutes, ça a été documenté par les sociologues. Le sentiment de déclassement et éprouver cette inégalité entre Paris, la capitale, et les banlieues parisiennes provoque ce sentiment de déclassement et cet énervement qui se traduit par des débordements.
Juliette Briens, je vous ai senti agacée en écoutant Pierre Rondeau.
Non, mais je trouve ça insupportable, cette culture de la victimisation là, qui va aller justifier les comportements de certains qui viennent tout casser, tout ruiner parce qu'ils ont la haine de quoi? Ils vont à l'école de la République, je veux dire, bien sûr qu'ils sont moins favorisés que d'autres enfants qui sont nés sous une meilleure étoile. C'est pas une raison pour tout casser, il y a des pauvres partout en France. Il y a pas que des pauvres dans les banlieues. Il y a pas que des pauvres dans les banlieues. Il y a des grandes misères en périphérie qui n'ont rien à voir avec les banlieues et ça ne ça ne pousse pas les jeunes à aller brûler des voitures, à aller casser et caillasser des flics. Donc
c'est injustifiable.
Non, mais c'est là que tu justifies en fait.
Oui, mais c'était pas. C'est
moi,
pas
ce discours-là, je pense qu'il est mauvais pour tout le monde, même pour ces jeunes en question, parce que à force de leur dire, mais vous inquiétez pas, c'est la société, c'est parce que vous êtes pauvres, c'est parce que vous êtes discriminés, mais ils n'ont aucune raison en fait d'arrêter un jour, puisqu'il y a toute une partie de la classe politique qui vient leur dire, oui, mais quand même, c'est normal. Les émeutes, c'est normal que vous soyez en colère. Il y a rien qui vient justifier ce genre de comportement. Donc c'est une
le
question
sentiment
de population.
Déclassement et d'inégalité vient peut-être expliquer.
Il y a des ultras qui sont liés à l'extrême droite. D'ailleurs, il y en a qui ont été arrêtés il y a pas longtemps. Ça n'empêche que les lendemains de matchs de PSG, quand les Champs-Élysées se retrouvent dévastés, c'est pas l'extrême droite. Enfin,
quoi. Certains ultras niçois venaient pour taper du Parisien.
Les groupes ultras d'extrême droite, je m'en fous complètement de ces gens. Ils sont tout aussi insupportables. C'est dérisoire quoi quand on parle d'un lendemain de match du PSG de parler de ça. Voilà.
Le Morning RMC présenté par Élise Dangean et Victor Pourchet du covoiturage entre femmes, bonne ou mauvaise idée. 87% des femmes ont déjà été harcelées dans les transports en commun. Certaines redoutent de les utiliser, voire arrêtent totalement de les prendre. Un sentiment d'insécurité qui a poussé Camille Cotard à créer Drive Lady, un site de covoiturage réservé aux femmes. C'est ce qu'elle expliquait ce matin sur RMC.
Aujourd'hui, c'est une web application disponible sur le lien app-drivelady.fr. On s'y inscrit. Donc, nous, on vérifie les profils avec les cartes d'identité et permis de conduire pour celles qui souhaitent donc proposer des trajets. Et ensuite, on peut donc proposer tout type de trajet. On va avoir du covoiturage classique et du covoiturage événementiel où nous, on va mettre en avant donc des lieux événementiels, donc des zéniths, des festivals, des boîtes de nuit pour que toutes les participantes puissent donc organiser leur trajet.
Donc, c'est vraiment de la mise en relation. Est-ce que c'est gratuit ou c'est payant ?
Alors donc c'est du partage de frais, donc du covoiturage, la passagère va donc payer une partie du trajet et une faible commission donc pour que chaque femme puisse rentrer sereinement. On a plus de 600 membres principalement normandes actuellement. Mm-hmm. On a un peu de tout type de profil, on a beaucoup de jeunes entre 18 et 35 ans, mais on a également beaucoup de femmes entre 40 et 60 ans où là ça va être plutôt pour des longues distances.
Yael Mellul, vous qui avez une association féministe, vous trouvez ça absolument génial, ce covoiturage entre femmes, ou alors regrettable d'en arriver là ?
Je trouve pas ça génial du tout. Je trouve ça d'une grande tristesse, en fait. On s'est battu pendant des décennies pour parvenir à la mixité. C'est quand même une grande avancée de notre République. Pour en revenir aujourd'hui à devoir, pour certaines, se sentir en sécurité qu'entre femmes. C'est comme la proposition qui a été faite en son temps de faire des wagons dans les métros que pour femmes, dans les trains. C'est complètement hallucinant quand on y réfléchit froidement de se dire qu'on ne peut être en sécurité que lorsqu'on est entre nous. C'est pas comme ça qu'on, de toute manière, ce n'est pas comme ça qu'on va régler la violence.
Mais vous, si vous avez le choix, par exemple, entre un blablacar classique et un drive lady avec une femme comme chauffeur, vous prenez quoi ?
Alors déjà, moi,
déjà blablacar. Je savais que vous alliez me dire ça.
C'est pas possible.
Mais admettons, vous êtes obligé.
Ah non, mais moi, je suis une grande consommatrice des VTC. Jamais eu aucun problème. Je suis toujours tombée sur des chauffeurs absolument charmants.
Vous n'auriez pas tenté un jour à 3h du matin, oui, vous avez le choix?
Bien sûr que ça arrive. Je veux dire, de la même manière qu'il y a des violences intrafamiliales qui vont se dérouler dans le huis clos du domicile familial à l'abri de tous les regards.
Enfin, je veux dire, mais ça, tu ne peux pas le contrôler.
Enfin, je veux dire,
non, mais Yael, la question. Oui, mais le soir à 3h du mat, vous avez le choix entre un chauffeur VTC homme et un chauffeur VTC femme. Vous prenez lequel?
Mais dis-le. Tu réfléchis, mais dis-le.
Franchement, votre fille est en soirée. Voilà. Et elle vous dit, je vais rentrer, je vais prendre un VTC. Est-ce que
non, je vais la chercher.
Non, mais vous pouvez pas aller la chercher. Vous envoyez un VTC, et ben, forcément, vous allez vous dire, tiens, ma fille sera plus en sécurité avec une femme, et c'est humain. Si les hommes n'étaient pas des porcs, la question se poserait pas.
Bien
le problème, c'est que.
Et oui, il y a.
Faut pas s'en prendre aux femmes qui organisent ça.
Ouais. Si elles, non, c'est pas cher.
Pas du tout.
Il y a des histoires glauques de VTC hommes qui ont pris avantage de. Surtout de jeunes femmes en état d'ébriété la nuit, hein, on va pas se mentir. Donc, forcément, si t'as pas envie de te poser de questions sur sa sécurité, etc., voilà, j'imagine que pour le covoiturage, c'est exactement pareil. Après, t'es pas à l'abri de tomber sur une connasse, hein.
Genre, non, mais c'est vrai, il y a moins de risques.
Non, mais monter dans un blablacar,
le covoiturage va super bien se passer.
Oui, mais monter dans un blablacar,
c'est
pas le même stress pour un homme et pour une femme. Moi, ça m'est déjà arrivé, je me suis pas posé une seconde la question de je monte avec Bernard ou Nicolas et je m'en fiche complètement. Quand ma copine monte dans un blablacar, elle m'envoie la plaque, le profil, je peux la tracer en direct. Bah oui, mais elle, c'est des questions, des réflexes qu'une femme doit avoir. Si ça peut enlever cette charge mentale de se dire je vais pas être en danger quand je monte dans la voiture.
Moi, quand je monte dans le métro ou dans le RER, j'ai beaucoup plus peur, quelque part, que quand je monte dans un VTC. Hein, je le dis très clairement. Hein.
Oui.
Voilà. Et quelle que soit l'heure de la journée, hein, je le prends jamais le soir. De toute manière, ça, c'est une règle. Mais voilà, c'est par définition des espaces aujourd'hui qui ne sont pas sécures.